parle régulièrement des Algériens qui ont quitté l'Algérie et la quittent encore, mais beaucoup moins de ceux qui ont fait le choix, alors qu'ils vivaient en France pendant le conflit algérien, de retourner dans leur pays sitôt l'indépendance déclarée. Ce fut le choix du père du réalisateur, Darman Ouzid, qui décida d'emmener sa famille vivre en Kabylie en 1966. Darman Ouzid est arrivé à l'âge de 2 ans en France et en est reparti à l'âge de 16. Il considère cela comme une chance, car selon lui, en restant en France, il serait peut-être cheminot, comme son père le fut, mais en Algérie, il a appris le cinéma tout en conservant sa langue, le français, car il est davantage francophone qu'arabophone. D'ailleurs, Darman Ouzid a marqué dernièrement l'histoire du cinéma algérien en réalisant la première comédie musicale algérienne, La Place, produite sans l'aide de la France, bien souvent coproductrice des fictions algériennes. Une fierté pour son réalisateur, et c'est d'ailleurs avec le cinéma que nous débuterons cet entretien qui nous emmènera de la France à l'Algérie.
Je m'appelle Darman Ouzid, je suis réalisateur en Algérie. J'ai fait l'essentiel de ma carrière qui remonte à 30 ans maintenant, j'ai 60 ans. J'ai commencé comme tous les jeunes réalisateurs à la fin des années 70, après avoir fait une école de cinéma, celle de Moscou. J'ai intégré d'abord l'entreprise publique de cinéma d'Alger, qui était le seul endroit où nous pouvions, à l'époque du socialisme, espérer faire du cinéma. Et j'ai suivi un cheminement classique, deuxième assistant, premier assistant, réalisateur de documentaires, de courts-métrages, et tout ça, avant d'arriver à faire des longs-métrages. Et à la fermeture de l'entreprise publique, juste après le mur de Berlin qui a fait tomber beaucoup de choses, y compris donc le socialisme en Algérie, à partir de 1995, les cinéastes algériens se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, puisqu'ils passaient du statut de prise en charge complet par l'État au statut de... Nous aimons à dire souvent que nous avons le chic de passer du tout-État au non-État, c'est-à-dire sans aucune mesure d'accompagnement, sur ce que deviendrait ensuite le cinéma algérien. C'est la raison pour laquelle, malheureusement aussi, dans la période de la décennie noire entre 90 et 2000, le cinéma a périclité et nous avons fait très très peu de films pendant cette période. Depuis 2000, il y a un regain dans la production, il y a l'arrivée maintenant de jeunes cinéastes qui, eux, sont aguerris aux nouvelles méthodes de production. Nous, les anciens, on s'accroche quand même et nous avons refait notre apprentissage au même titre que les jeunes, à savoir l'apprentissage de comment on monte une production dans les règles de l'art du cinéma privé. Les financements en Algérie sont encore essentiellement étatiques. Nous venons, mon partenaire et moi, à savoir l'auteur du scénario, Salim Aïssa, qui est également directeur artistique du film, nous venons donc de produire, grâce à la complicité du producteur Belkacem Hadjadj de Meshaou Productions, qui a cru en notre sujet, en notre projet, un projet un peu fou au départ, parce que qui parierait sur une comédie musicale à l'algérienne, voyez ? Et là, bien sûr, nous surprenons un petit peu tout le monde parce qu'on n'attend pas le cinéma algérien avec un tel film. L'essentiel des films algériens de ces dernières années se sont penchés, malheureusement à juste titre, sur la décennie noire, sur le terrorisme, sur tous ces moments graves que nous avons vécus. Donc le cinéma algérien a toujours eu un ton un peu grave. Il y a eu quelques comédies légères, grinçantes, telles Mascarade de Lies Salem, telles également le travail admirable fait aussi sur Viva l'Algérie de Nadine Mernesh. Donc quelques films quand même où il y avait de l'humour, mais c'était plutôt un humour grinçant. Par contre, nous arrivons avec des jeunes gens, des garçons et des filles qui chantent, qui dansent, qui jouent la comédie. Ça peut sembler banal pour une cinématographie ordinaire qui fait plein de films. Voyons les comédies musicales américaines, voyons les comédies musicales hindoues, les comédies musicales égyptiennes. Mais attendez, après le parcours d'un pays comme le nôtre, qui sort de 10 années d'obscurantisme et c'est pas fini encore, le simple fait que des jeunes montrent aux jeunes du monde entier, des jeunes Algériens. Et ils disent, écoutez, nous vous ressemblons. Nous aussi, nous voulons vivre nos 20 ans au même titre que vous. Nous aussi, nous voulons chanter, nous voulons rire, nous voulons danser. Nous voulons tout simplement être jeunes. Nous voulons avoir un regard optimiste vers notre avenir. Eh bien, c'est le message qui est porté par ce film. Et les jeunes que nous avons découverts nous ont fait une joie immense parce que, n'ayant aucune tradition dans le domaine, eh bien, il a fallu tout inventer, tout réinventer nous-mêmes. Les jeunes n'étaient pas des professionnels de la danse, ce n'étaient pas des chanteurs professionnels. Ils y ont simplement mis leur cœur. Et au bout du compte, nous pensons avoir amené avec nous une œuvre certes modeste, mais en tout cas pleine de sincérité. Et nous pensons que notre jeunesse, eh bien, à travers ce film, est belle. Et nous croyons que nous pouvons surprendre le regard de l'autre, c'est-à-dire la façon dont notre jeunesse a été perçue malheureusement ces dernières années, à travers les jeunes qui traversent la mer, comme on dit chez nous, pour aller préférer mourir noyé que de continuer à essayer de lutter chez eux. De cette jeunesse aussi qui malheureusement a été prise dans l'étau de l'intégrisme. Et là, les sirènes de l'intégrisme continuent à sonner. Eh bien nous, contre ces sirènes-là, eh bien, nous voulons amener un immense champ d'espoir.
Darman Ouzid, donc là vous parlez de La Place, hein, donc votre dernier long métrage, film qui est en projection cinéma, mais qui est aussi disponible en mode série, 18 petits films diffusés à la télévision. D'ailleurs, si vous en parlez, c'est parce que vous êtes là au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, 32e du nom, pour présenter ce film. Mais avec vous, on va plutôt parler de votre parcours, parce que vous avez une espèce d'avantage, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de différentes cultures. Racontez-nous d'abord comment vous avez connu la France.
Oh là là, ma relation avec la France est bien bien lointaine, puisqu'elle commence en 1952, où à l'âge de 2 ans, j'arrivais en France dans le panier que ma mère amenait de Kabylie. Mon père était cheminot, il travaillait à la SNCF à l'époque, et donc nous avions émigré, mon père, ma mère et moi. Et j'ai donc vécu quelques années dans le nord de la France, dans la région lilloise, où il y avait une très très grande gare de triage qui s'appelait l'île Délivrance. Et c'est là-bas où j'ai passé toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 16 ans. En 66, date où il a fallu pour mon père prendre la grande grande décision, soit en tant que fonctionnaire prendre la nationalité française, soit se lancer dans le privé en tant qu'Algérien étranger. Il a pris la décision de retourner au pays. Il a continué son métier de cheminot. Il a pris sa retraite il y a quelques années de cela. Et donc, il nous a ramenés, moi qui avais 16 ans, et mes frères et sœurs, mes 4 frères et sœurs, tous nés en France. Et nous avons effectivement fait le chemin inverse. Au moment où l'émigration de l'Algérie vers la France commençait à se développer, eh bien, mon père et ma mère ont fait le choix du retour vers l'Algérie. Alors, était-ce un choix heureux ou pas ? Vous savez, nous ne sommes pas maîtres de notre destin, mais je me dis quelque part que si mon père n'avait pas pris cette décision, eh bien, je serais peut-être cheminot comme lui dans le nord de la France, et je n'aurais peut-être pas pu aller dans cette grande école prestigieuse de cinéma qui est le FGIC de Moscou, avec une bourse de mon pays, l'Algérie. Donc, en ça, je crois que j'ai plutôt été chanceux, et si ce n'était que pour ma carrière de cinéaste, eh bien, oui, mon père avait pris la bonne décision.
En Algérie, cette semaine a vu naître le premier gouvernement d'une république qui se veut démocratique et populaire. Pour son chef Ben Bella, l'objectif immédiat est de rétablir l'ordre et par la même occasion, la confiance des Européens.
Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Parce que finalement, est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle il n'a pas pris la nationalité française et qu'il a préféré retourner en Kabylie?
Et oui, vous savez, malheureusement, ça c'est l'histoire malheureuse de nos deux pays. Je vous rappelle qu'en 62, l'Algérie avait son indépendance après de rudes épreuves communes aux deux peuples, le peuple algérien et le peuple français. Beaucoup de gens ont souffert des deux côtés. Mais le problème, c'est que mon père était militant de l'indépendance pour son pays. Et le fait de prendre la nationalité française au lendemain de cette indépendance, malheureusement, résonnait dans sa tête comme, à ce moment-là, aller contre ses principes. Et surtout, il y avait malheureusement cette crainte terrible d'être assimilé pour l'époque aux Harka, les Harkis. Bon, vous connaissez le problème, évidemment. Et donc, uniquement cette image-là faisait qu'il ne pouvait pas le faire. Bon, vous savez, c'est le dire maintenant où beaucoup d'Algériens ne rêvent que de prendre la nationalité française. Vous savez, bon, nous les comprenons parfaitement. Mais il n'y a pas le poids de l'histoire maintenant. Maintenant, nous avons beaucoup de binationaux. Les enfants d'émigrés sont binationaux. Et beaucoup le portent très bien, sans souffrance, bien au contraire, avec la richesse que cela donne d'être des deux côtés en quelque sorte et en un. Mais au lendemain de l'indépendance, c'était vraiment, vraiment un gros, gros problème. C'est pour ça qu'il a fait cette démarche du retour au pays. Mais en même temps aussi, il a fait, je vous dis, il aurait pu rester et aller travailler dans le privé. Donc ça ne posait pas de problème. Non, c'était aussi un déclic. C'est comme si on lui avait dit, monsieur, maintenant, quand même, faites votre choix. Parce que il est vrai que lorsque vous avez milité pour l'indépendance de votre pays, moi je crois qu'il a fait le bon choix de dire oui, mais alors là, ce pays, il faut aller aider à le reconstruire. On ne le reconstruit pas de loin, on ne le reconstruit pas à distance. Même si nos émigrés envoyaient de l'argent à leur famille pour le faire subsister, nous ne pouvons être réellement nous-mêmes qu'en étant là-bas. Donc c'est le choix qui a été fait, et pour cela je soutiens ce choix, vraiment.
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire, de voir que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
Quel souvenir vous avez, vous, de la France, hein, puisque vous avez passé votre petite enfance jusqu'à votre adolescence en France?
C'est très complexe, parce que, en toute franchise, j'ai eu une enfance un peu bizarre, effectivement. Parce que mes parents ayant leurs soucis de parents, mes parents vivant la guerre d'Algérie, mais un petit peu de loin. À l'époque, nous étions très, très, très peu de familles maghrébines dans l'endroit où nous étions. Et c'est comme si mes parents voulaient me préserver et donc ne me parlait jamais de cela. Et je dois avouer que quelque part, je ne savais pas qui j'étais. Je vais vous donner un exemple bien simple. Dans ces petits patelins, il y a par exemple le catéchisme. Il y a ce qu'on appelait la salle, c'est-à-dire que tous mes camarades de classe, le jeudi après-midi, ils fréquentaient la salle qui était gérée par les curés, et ça faisait partie un petit peu de tout le côté préparation aux activités religieuses et autres, et je n'y allais pas. Sauf que mes parents ne me disaient pas pourquoi je n'y allais pas. Ils disaient, bon, nous, on n'y va pas. Ils n'ont pas su avoir la pédagogie nécessaire pour expliquer à leur enfant qui il était réellement. Et ça, je crois que j'en ai longuement souffert. Parce qu'il y a aussi le regard de l'autre. Je n'ai jamais eu de problème avec le regard de mes petits camarades, français de souche, dirais-je. Mais il y avait toujours quand même un petit questionnement. « Tiens, toi, pourquoi t'es pas baptisé ?» J'aurais aimé pouvoir leur dire « Attendez, c'est parce que moi, je suis musulman, je suis... » Non, je savais pas qui j'étais. Et donc c'est une souffrance assez difficile à vivre, mais en même temps donc on s'intériorise, on s'enferme, et c'est pour ça que j'ai beaucoup vécu à travers la lecture. J'ai lu toute ma vie et vous savez, à l'époque, nous n'avions que le petit poste de radio pour suivre la famille du raton sur RTL dans les années 50. Et sinon, l'essentiel de ma vie, eh bien, c'était la lecture. Et donc, dans la lecture, j'allais vers un monde que j'idéalisais et dans lequel je me sentais bien. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas du tout été malheureux, je n'ai pas vécu une vie d'émigré malheureux, pas du tout, mais je crois que j'ai été surprotégé par mes parents, que c'était bien, mais en même temps, je ne savais pas qui j'étais réellement, à savoir, donc ne parlant que le français à l'époque, mes parents sont kabyles. Ils se parlaient entre eux en kabyle. Avec moi, c'était le français, et lorsque nous sommes rentrés en Algérie, j'ai découvert une autre langue qui est la langue arabe, que je ne comprenais pas du tout. Donc il a fallu que je fasse tout ce cheminement d'apprentissage et tout. J'ai quand même eu la chance d'aller au lycée français, donc il n'y a pas eu de cassure trop brutale. Où l'on balance d'un...
Non.
Là, j'ai continué mes études en langue française, donc j'ai un bac français. C'est ça qui m'a quand même sauvé, sinon ça n'aurait pas été possible. Voilà, ce contact des langues qui s'entrechoquent dans ma tête, je l'ai vécu y compris à Moscou, où d'un seul coup, au lieu d'apprendre l'arabe, j'ai été apprendre le russe à Moscou. Je peux dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, finalement, je n'ai pas eu de contact avec la langue arabe. Et n'oublions pas que l'Algérie est le deuxième pays au monde, deuxième pays francophone au monde à ce jour. On doit bien se poser la question, comment est-ce que ce pays qui a son indépendance depuis 62 et qui a une école qui est arabisée totalement maintenant, eh bien comment se fait-il qu'à ce jour, elle est encore profondément francophone? La presse francophone en Algérie tient le haut du pavé. Bien, ça veut dire que ces liens sont tellement forts qu'un demi-siècle après, eh bien, ces liens ne sont pas distendus encore. Et je dis toujours qu'il est très très facile pour quelqu'un de vivre à Alger sans parler l'arabe et sans apprendre l'arabe, tellement la langue française y est encore très très présente. C'est le bon côté des choses pour le touriste français, mais c'est le mauvais côté des choses pour un garçon comme moi qui aurait dû en profiter pour approfondir ses connaissances en langue arabe. L'arabe, je l'ai appris sur les plateaux de tournage pendant que je faisais l'assistant, voyez ? Et c'est ce qu'il y a de très très amusant. Quand vous êtes sur un plateau de tournage algérien, eh bien vous verrez le réalisateur donner ses instructions en français. Tout le monde parle en français. Et le seul moment où on parle l'arabe, eh bien c'est au moment où le réalisateur dit « Moteur, action, ça tourne, partez !» Et là, vous entendez des comédiens qui s'expriment en arabe. Le réalisateur dit « Coupez !» et le comédien se tourne vers le réalisateur et lui dit en français « Bon alors, ça va, j'étais bien ?» حسيسي وما غرضي موش وهذا الأخبار شدها غامض اللي نفسنو الفود شناوي نتحسيسي وما غرضي موش وهذا الأخبار يا سيف يا سيف من هك خرب النمانية أوه يا سيف يا سيف كنش كر السبل الحين
Donc, importance quand même de la langue française pour vous. Alors, vous avez peut-être des difficultés à dire quelle est votre langue maternelle, mais c'est quand même cette langue-là qui vous a mené peut-être là où vous êtes, non ? Du côté artistique, peut-être ?
Il est bien évident que ça m'est très difficile de parler de langue maternelle, puisqu'on assimile toujours la langue maternelle à la langue qui vous a été inculquée par votre maman. C'est la langue de l'éveil. C'est la langue, les premières sonorités qu'entend un enfant. Donc on dit maternelle parce qu'effectivement, c'est la maman la première qui murmure ces mots aux oreilles de son enfant. Alors, je n'ai pas donc sur ce plan-là de langue maternelle, puisque la langue que je maîtrise le mieux est la langue française. Et donc, puis-je dire langue maternelle, sans doute, quelque part. La langue dans laquelle nous rêvons est cette langue-là. Donc je rêve en français, bon, bien je dirais que je suis culturellement de langue maternelle française. Voilà.
Alors, vous avez vécu la plupart de votre vie, hein, quand même, donc en Algérie, vous l'avez précisé. Vous êtes allé ensuite à Moscou, mais c'est parce que l'Algérie était socialiste et avait des liens, évidemment, avec l'Union soviétique. Est-ce que vous êtes revenu en France et à quel moment et qu'est-ce que vous avez pensé de la France à ce moment-là?
Je suis venu régulièrement en France de par mon travail, donc j'ai eu souvent à revenir en France, mais en sachant très bien que ma vie était en Algérie, de toute façon, il n'y a jamais eu dans ma tête de velléité ou d'envie de revenir en France, dans la mesure où j'avais quand même la chance de pouvoir pratiquer mon métier, même si ça ne se passait pas très bien professionnellement en Algérie. Mais bon, je le pratiquais dans mon pays. Lors de la décennie noire, vous savez, moi, j'étais quelqu'un qui voyageait énormément, mais pendant 13 ans, je n'ai pas quitté l'Algérie. De 1990 à 2003, je n'ai pas eu de passeport. Et je n'ai pas quitté l'Algérie. Alors, je n'ai pas eu de passeport, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas donné de passeport. Je n'ai pas demandé de passeport. Je n'ai pas vu l'utilité d'avoir un document de voyage pour des voyages qui ne me menaient à rien pendant la décennie noire.
Parce que vous ne pouviez pas travailler, c'est ça, essentiellement?
Oui. Tout à fait. L'essentiel de nos voyages, nous les faisons dans le cadre de nos activités professionnelles. Nous ne sommes pas de bons touristes. Et donc, dans la mesure où il y avait ce poids de notre environnement qui nous touchait tous, il y a eu aussi malheureusement ce blackout des chancelleries étrangères vis-à-vis de nous. Je trouvais humiliant à l'époque le fait d'aller dormir par terre devant le mur d'enceinte d'une ambassade en attendant son tour pour essayer d'avoir un visa le lendemain. Bon, donc ça, je me suis refusé à cela. Et donc, je suis resté chez moi, auprès des miens. Je n'ai peut-être pas fait de film à ce moment-là, mais j'ai beaucoup activé dans le mouvement associatif. Il y avait énormément à faire. Je vous rappelle que l'Algérie était coupée du monde. Les Algériens ont été livrés à eux-mêmes. Et il a fallu que nous survivions et nous avons survécu. Donc pendant 13 ans, je n'ai pas quitté l'Algérie. Et je n'ai requitté l'Algérie en 2003 que pour des raisons professionnelles. Et depuis 2003, eh bien, je voyage pas mal effectivement dans le cadre de mon travail.
Darman Ouzid, alors donc, on peut peut-être parler aussi de votre famille, parce qu'il y a un mélange des langues, effectivement. Alors, est-ce que tous vos frères et sœurs, qui eux sont nés en France, sont restés en Algérie, quand vos parents y sont repartis, ou est-ce que eux, ils ont eu l'appel de la France? Comment ça s'est passé?
Nous faisons partie de ces familles qui sont très très partagées. Alors, on parle de familles recomposées dans les histoires de familles du divorce et tout ça, et ça crée des mélanges. Eh bien, nous avons des mélanges, mais pourtant de frères et sœurs du même père et de la même mère. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, parce que j'aime toujours à donner l'image de la table du dîner à 20h le soir quand toute la famille se réunit. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'unique au monde. Où est-ce que vous avez vu une famille dans le monde? Une famille allemande, ça parle allemand à table le soir. Une famille française, ça parle français. Une famille suédoise, ça parle suédois, etc. etc. Eh bien, une famille algérienne, vous pouvez avoir trois langues qui s'entrechoquent au moment du repas, et ces trois langues sont prononcées par les membres de cette même famille. Je m'explique. Mes parents se parlent en kabyle entre eux, leur langue maternelle. Mes frères et sœurs, un petit peu de ma génération, qui sont nés et qui ont vécu en France, se parlent en français. Nous parlons en français entre nous. Nos parents nous parlent en kabyle, nous leur répondons en français. Et tout se mélange de cette façon-là. Et il y a la troisième génération, ce sont les plus jeunes. J'ai trois sœurs qui sont nées en Algérie, elles, et qui ont été donc élevées, éduquées entièrement à l'algérienne et sont allées à l'école algérienne, donc arabisées. Et donc qui, elles, parlent entre elles l'arabe. Et donc, cela crée une situation franchement très intéressante, c'est comment au sein d'une même famille nous pouvons nous parler dans trois langues différentes et nous comprendre et le faire de façon très très naturelle et spontanée. Eh bien, c'est une richesse formidable et en tout cas, je vous invite à venir écouter ça un soir.
Pour terminer, on va revenir à votre métier de réalisateur. Alors, vous étiez venu il y a quelques années demander une bourse d'aide qui existe ici à ce festival méditerranéen, que vous n'avez pas obtenu. Voilà, donc vous avez, c'était pour votre film, donc La Place, qui est présentée cette année. Donc vous avez donc tout tourné là-bas en Algérie avec de l'argent, enfin une production algérienne. Ben, tout à l'heure, quand je vous entendais parler du français encore présent en Algérie, deuxième pays francophone et ainsi de suite, on sent qu'il y a effectivement une relation encore avec la France et y compris avec le cinéma. Vous parliez aussi du film Mascarade, c'est une coproduction, enfin, me semble-t-il, franco-algérienne. Oui. Est-ce que l'enjeu de l'Algérie, et je pense que ça peut être compliqué, mais vous avez montré l'exemple, est-ce que c'est pas de produire des films en toute indépendance ?
Nous essayons, nous les cinéastes qui vivons en Algérie, exclusivement en Algérie, nous essayons de faire le pari qu'il est possible de faire des films entièrement ce que nous appelons algéro-algériens. Et La Place en est l'illustration. C'est vrai que ça nous prend 5 ans de notre vie, mais nous faisons en sorte de pouvoir, avec les moyens du bord, eh bien, réussir à faire ce travail. Je suis venu en 2008 pour demander l'aide de la Bourse au développement qui nous aurait été très très utile pour la conception des chorégraphies, domaine qui nous était totalement étranger. Donc on aurait aimé avoir auprès de nous le regard d'un grand chorégraphe d'origine algérienne qui est vraiment un maître dans son domaine.
Qui aurait pu être Kader Atou, mais qui était Mourad Merzouki.
Tout à fait. Mais bon, n'ayant pas eu cette bourse et n'ayant pas les moyens financiers en Algérie de pouvoir payer l'intervention ou la participation de ces grands noms, eh bien, nous nous sommes dit, bon, ben, la vie ne s'arrête pas là. Et nous avons donc travaillé nos chorégraphies directement avec nos jeunes. Voyez, donc il n'y a pas de fatalité. Toute aide demandée est bonne à recevoir si elle est donnée. Bon, mais si elle n'arrive pas, il faut trouver des solutions. Le film doit se faire et il s'est fait et c'est ça qui est formidable. Je m'enorgueillis de venir faire un petit clin d'œil à mes collègues qui ont eu la bourse de développement et qui n'ont toujours pas tourné leur film.
Alors pour le coup, l'avenir, c'est quoi pour vous ? C'est en continuer sous cette formule, le film algéro-algérien.
Comment vous dire, c'est un point d'honneur. Vous savez, je vais vous confier un petit truc. J'ai eu une grosse bagarre avec mon producteur dernièrement parce que concernant La Place, la comédie musicale, parce qu'il aurait voulu, une fois que tout était terminé, le montage, etc. Bon, il voulait que l'on ramène un aéropage de gens qui seraient venus, qui auraient vu le film, qui auraient donné leur avis. Vous savez, un peu à l'américaine, preview, et voir après, selon les avis, peut-être remodeler le montage, peut-être raccourcir par-ci, revoir par-là, et y compris au niveau du montage, ramener un grand chef monteur d'envergure internationale et qui serait venu voir et aurait donné son avis. Eh bien, je me suis opposé à cela, tout en ayant tort de le faire. Mais vous savez, ça, c'est sentimental, c'est le cœur qui parle. J'ai dit que ce film, nous l'avons porté à bout de bras, toute l'équipe et nous, je dis bien toute l'équipe. Ma chef monteuse, avec qui j'ai l'habitude de travailler, nous avons fait plusieurs films ensemble, plusieurs séries télé, plusieurs feuilletons. Donc, elle a mis son cœur là-dedans et je me serais senti vraiment très mal à la fin de lui dire, voilà, maintenant, il y a un grand chef monteur expert étranger qui va venir, en quelque sorte, évaluer ton travail et te dire que là, tu aurais pu faire ceci, là, tu aurais pu faire cela. Et ça, je me suis refusé à cela. Tout en sachant que si nous l'avions fait, bien sûr que ça aurait enrichi le film. Mais j'ai préféré l'authenticité de cette œuvre, y compris avec ses éventuelles insuffisances, mais en vous disant, voici ce que les Algériens sont capables de faire à tous les niveaux d'intervention de la fabrication du film, tant dans le domaine artistique que technique. Et pour moi, je suis sûr que c'est plus valorisant que de l'avoir fait sous la supervision des plus grands experts au monde qui seraient venus au chevet de cette comédie musicale.
C'était un entretien avec Darman Ouzid, réalisateur de La Place. Nous nous quittons avec Cher Sidi Bémol, qui a collaboré à la bande originale du film, première comédie musicale algérienne.
من نقبة الفلسطينية واش من هذا القرن هذا معول على الحروب الأهلية حماد الدنيا فر والحمى من نقبة الفلسطينية واش من هذا 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 واش من هذا